Ventem. On notera également un véhicule en panne, c'est sur le 40 à hauteur d'Everlé, dans l'échangeur avec la E313 en venant de Louvain. La bande de gauche est obstruée vers Bruxelles. Et puis un petit peu plus loin, c'est un poids lourd qui est signalé en panne en bande de droite à hauteur de Sterrebeek vers Bruxelles.
Infotrafic. Roulez en toute sécurité avec Bell RTL.
C'est la fête des mères ce 12 mai. Profitez de moins 20% sur tous les produits féminins chez April Parfumerie jusqu'au 28 avril. Rendez-vous en magasin ou sur april-beauty.be.
C'est le 314 en venant de Louvain, autant pour moi. Il est 9h. Il est vraiment temps que je cède la parole et c'est le journal tout de suite avec Thomas de Vergueil.
Et à demain, Sandrine, bonjour à tous. Bienvenue dans ce RTL Info 9h. Nos droits humains ne sont plus garantis. Le rapport édifiant d'Amnesty International en regard des grands conflits, la Belgique, est aussi pointée du doigt. La semaine des 6 jours, ça existe. Les cadres de Samsung sont priés de travailler plus pour sauver l'entreprise. On part en Corée dans un instant. Et puis les moustiques ne sont pas de retour en Belgique. Ils n'ont en fait jamais disparu. La raison, le réchauffement climatique. Et leur vedette, c'est le moustique tigre, vous l'entendrez.
Bell RTL.
Le dernier rapport inquiétant d'Amnesty International. Nos droits humains ne sont plus garantis. C'est pourtant l'essence même du nouvel ordre mondial instauré après les deux grands conflits. Ce rapport, Florent Vandenberg, n'épargne pas la Belgique.
Tout à fait, avec d'abord la crise de l'accueil des demandeurs d'asile qu'Amnesty qualifie de désastreuse. Depuis 2 ans et demi, des milliers de personnes survivent dans la rue. Ce sont les mots de Karine Thibault, directrice de la section belge francophone de l'organisation.
Aux hommes seuls, on leur a dit, on ne peut pas vous accueillir, on ne peut pas vous offrir un toit. Le gouvernement belge s'est assis sur 8000 décisions de justice. Donc 8000 décisions de justice qui ont condamné l'État belge parce que l'État belge ne remplit pas ses obligations internationales en matière d'accueil des demandeurs d'asile.
Un passage par nos prisons également, la surpopulation et le délabrement des infrastructures inquiètent sérieusement l'ONG.
On dit souvent, hein, regardez l'état des prisons pour voir l'état de votre démocratie. Et dans ce cas-ci, nos prisons sont un drame parce qu'on a 250 personnes qui dorment par terre. On a des gens qui n'ont pas accès à des conditions sanitaires. Ne parlons même pas de l'accès à des soins psychiatriques qui sont indispensables pour des personnes qui ont des problèmes de santé mentale.
Troisième préoccupation, le droit à la protestation mis en danger par le projet de loi anti-casseurs du ministre de la Justice, c'était en 2023.
On l'a vu avec la révision du code pénal, où on a voulu introduire une interdiction judiciaire de manifester, qui aurait été une nouvelle peine, qui présentait de grands risques en matière de droits humains et de limitation du droit de protester.
Et on le rappelle, cette loi anti-casseurs prévue dans la réforme du code pénal a finalement été abandonnée par le gouvernement.
Florent Vandenberg et le contenu est à retrouver à tout moment sur RTL Info. Grosse collision ce matin sur le ring d'Anvers en direction de Gand. À hauteur du viaduc de Merxem, 3 bandes de circulation sur 4 sont fermées. Le conducteur de l'un des camions doit encore être extrait du véhicule avant que les opérations de remorquage ne commencent. 3 informations emploi ce matin. Le point mort chez Bipost. La réunion syndicat direction n'a rien donné hier, mais un nouveau rendez-vous se tient ce matin. Aujourd'hui, ce sont les centres de tri qui sont bloqués. Les facteurs craignent une perte massive d'emplois, entre autres avec la fin du contrat pour la livraison des journaux. L'emploi à l'aéroport de Bruxelles, positif. 75 agents de gardiennage engagés pour faire face au pic de trafic attendu cet été. Ils patrouilleront dans toute la zone de l'aéroport, prodigueront même les premiers soins en cas d'accident et inspecteront bagages, véhicules, fournisseurs et passagers. Et puis, l'emploi à 6 jours par semaine chez Samsung. Le but, injecter un sentiment de crise face à la situation internationale. Sophie Jousselin, chez Samsung, on s'attend à une année difficile et donc les cadres devront tout donner.
Oui, les cadres de l'entreprise doivent choisir, passer le samedi ou le dimanche au bureau. Les autres employés ne sont pas concernés et peuvent faire la grasse matinée. En imposant ce jour de travail supplémentaire, la direction du Chebol, c'est le nom de ces groupes d'entreprises familiales en Corée, veut provoquer un électrochoc chez ces têtes pensantes et leur faire prendre conscience que l'entreprise est en crise. Alors au menu brainstorming, les dirigeants veulent que les cadres révisent voire réinventent leur stratégie commerciale pour s'adapter à la situation géopolitique mondiale chamboulée par les différents conflits. Samsung a accusé une perte de 11 milliards dans le domaine des semi-conducteurs l'année dernière. La monnaie nationale, le won, est en baisse, un handicap face à la hausse du prix du pétrole. Samsung n'est pas le seul chebol à prendre ce genre de décision. Un autre conglomérat sud-coréen spécialisé dans l'énergie et les télécommunications obligent les PDG de toutes ces filiales à des réunions de travail hebdomadaires chaque samedi.
Pour RTL, Sophie Jousselin. À quelle tribu politique appartenez-vous? À 46 jours du 9 juin, un test est en ligne sur RTL Info. Êtes-vous un révolté, un autoritaire, un centriste? Un test inédit. Rendez-vous sur l'app ou sur le site RTL Info. À l'étranger, le Hezbollah libanais dit avoir tiré des dizaines de roquettes après la mort de deux civils dans une frappe sur le sud du Liban. Selon l'agence de presse libanaise ANI, une frappe israélienne a d'abord tué une femme d'une cinquantaine d'années et une fille de 12 ans de la même famille et fait des blessés dans cette maison de Hanin. C'est près de la frontière israélienne. 3 milliards d'euros, c'est le coût estimé de la reconstruction en Grèce après les inondations de l'année dernière. Elles avaient fait 17 morts et beaucoup de routes effondrées. Ce sont elles qui seront réparées en priorité. Et en mieux, promet le Premier ministre grec. Il est 9h05, les moustiques n'ont jamais vraiment disparu de nos vies et de nos nuits aussi. C'est logique, il a beaucoup plu ces derniers temps et les températures sont restées anormalement plus élevées. De quoi les voir proliférer. Ils vont donc nous accompagner vers l'été et certains sortent du lot. C'est le cas des moustiques tigres, présents aujourd'hui en région parisienne par exemple. Il y a 10 ans, ils étaient totalement absents. François Verheugen est professeur de zoologie à Jean Blou Agrobiotech.
Le fait que certaines espèces étaient absentes de nos territoires et deviennent présentes aujourd'hui est lié au fait que le climat se réchauffe et vous savez, une différence d'un degré et demi peut tout à fait modifier alors l'aire de répartition d'un insecte. Un degré, ça le rend peut-être un territoire bien plus propice qu'avant. Puis on se souvient qu'avec les changements climatiques viennent aussi les questions d'humidité ou de sécheresse. Certaines espèces sont particulièrement sensibles à la sécheresse ou au contraire adorent cette humidité. Et donc ces changements de climat, avec notamment la présence de certains extrêmes, peuvent faire disparaître certaines espèces sensibles et au contraire permettre la prolifération d'espèces qui sont adaptées.
Une interview d'Olivier Patzelt. RTL Sport avec le padel. Le mini-tennis, on compte de plus en plus d'amateurs et de professionnels au point que la 5e étape du championnat du monde se déroule chez nous, à Tour et Taxi, à Bruxelles. Maxime Deloyer a 20 ans à peine, c'est un padeliste professionnel. Une discipline à ne pas confondre avec le paddle qui se pratique sur une planche sur l'eau.
Souvent on dit le paddle c'est le sport sur l'eau, donc avec ta planche, mais au fur et à mesure des années, j'expliquais que je faisais des tournois internationaux, que je voyageais, que je m'entraînais, donc les gens ils s'intéressaient un peu plus au paddle. C'est sûr que c'était pas très connu à l'époque où j'étais en secondaire, mais maintenant quand tu parles de paddle, directement c'est le sport de raquette, c'est waouh, c'est incroyable ce sport, et les gens connaissent, c'est convivial, et les gens quand ils regardent un point, c'est spectaculaire, ils ont envie de continuer la suite du match, mais c'est vraiment un sport qui mérite d'être aux Jeux Olympiques, c'est comparable à plein d'autres sports qui y sont déjà, donc je croise les doigts pour que ce soit le plus rapidement possible.
Et c'est très à la mode, hein. Arnaud Toussaint pour l'interview. Cette année encore, le tournoi sera à suivre sur les antennes d'RTL. Invité à 13h20 en télévision, Éric Emmanuel Schmitt pour le 4e tome de sa traversée des temps, La lumière du bonheur, qui nous emmène en Grèce. Il y aura aussi un certain Benjamin Maréchal, juste avant 13h, puisqu'on est mercredi, qui parlera de coûte que coûte. Il est partout, ce Maréchal, c'est dingue.
Non, mais attendez, là, c'est pour sécuriser les maisons.
C'est vrai, oui.
Vous savez qu'avec un petit outil qui fait bzz, 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 on a ouvert une serrure en 13 secondes.
Mais on peut l'acheter, cet outil? Non, pas publiquement.
Ah si, mais d'abord, j'ai le nom, mais je vais pas vous le donner.
Non, bah non.
J'ai le mode de fonctionnement, mais je vais pas vous le dire. Et même qu'à la télévision, on l'a pas montré pour être sûr que personne ne se dise, tiens, 13 secondes, bzz, 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 et c'est ouvert.
Ouais. C'est flippant, hein.
Ah, c'est flippant.
Votre émission risque de faire le bzz.
Elle est pas mal. Pas mal. Bon, quand vous aurez fini d'imiter l'abeille, on pourra y aller. Et maintenant, il mériterait d'être dans le journal. Bonne journée, Thomas.
D'être dans le journal. Benjamin Maréchal.
Dans la nuit du 16 au 17 mai 2018, sur le 42, à hauteur de l'aire d'Ulplanche, la police repère une camionnette suspecte. Une course-poursuite s'engage. Un policier vise les pneus de ce véhicule et tue la petite Maouda, 2 ans. C'est le début de l'affaire Maouda que l'avocat du policier tireur raconte dans un livre qui s'appelle Le procès Maouda. Laurent Kenness mérite ce matin d'être dans le journal. Qui était Maouda? Comment un policier de la route devient pour l'opinion publique un tueur d'enfants? Qui sont les protagonistes de cette affaire et pourquoi le jugement laisse comme un goût amer? Vous le saurez ce matin en écoutant les hommes qui mériteraient d'être dans le journal. L'avocat donc du policier tireur, même si la formule est très 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 restrictive. Laurent Kenness, bonjour.
Bonjour.
Vous racontez donc le procès Maouda dans ce bouquin, et vous racontez ce qui est intéressant aussi, non pas ce qu'on a lu dans le journal, mais vous racontez d'où viennent ces gens, ces migrants qui étaient dans une camionnette, ce qu'ils faisaient là, et puis comment votre client, le policier, a été tué. Un mot d'abord sur le policier, quand vous le voyez la première fois, c'est pas le king comme on l'imagine dans les films, c'est pas le casse-cou cow-boy qui tire, quoi. C'est pas la première image que vous avez de lui.
Non, je rencontre d'abord un homme qui est assez effondré, qui est plutôt, puisqu'il est déjà accusé à ce moment-là,
C'est une personne également qui se montre très timide, très en retrait, donc c'est pas du tout l'image de quelqu'un qui revendique avoir bien fait les choses, quelqu'un qui se pose énormément de questions et qui surtout est bouleversé par le décès d'un enfant.
Ah ouais, sa vie bascule véritablement ce soir-là, comme la vie évidemment des parents de Maouda. Vous allez nous raconter cette histoire minute par minute dans le détail. Je rappelle que votre client a été condamné à 10 mois d'emprisonnement, ce qui vous laisse un petit goût, si pas de surprise, un petit goût amer dans la bouche. On aura l'occasion de comprendre pourquoi ce matin. Alors d'abord, vous répondez aux questions de la voix. C'est la voix qui vous interroge d'abord. C'est pas le juge, mais c'est la voix chez nous.
Bonjour monsieur l'avocat. Ce soir-là, il est 2h du matin. Combien de personnes sont entassées à l'arrière de la camionnette avec Maouda ?
28.
Ah, c'est dingue. Ça, les policiers ne savaient pas quand ils arrivent et qu'ils suivent, qu'ils font une course-poursuite. Ils ne savent pas au départ qu'il y a des gens dedans. Hein.
Alors, ils ne savent pas qu'il y a des gens dedans. Il y a un problème de communication, donc on pourra le détailler peut-être plus tard. Mais donc, en tout cas, ils ne savent pas qu'il y a 27 personnes. Les policiers namurois, donc, qui ne sont pas dans le véhicule de mon client, voient qu'il y a des personnes qui jettent des affaires par l'arrière et qui pensent même qu'à un moment donné, ils menacent de jeter un enfant par l'arrière. C'est comme ça que ce sera interprété par un des policiers. Ce sont des migrants qui veulent montrer qu'il y a des enfants dans la camionnette.
Ah, ce qui veut dire la police, mollo, 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 mais on comprendra que c'était pas si mollo que ça. Question.
Est-ce que Victor, le policier qui a tiré, avait déjà fait beaucoup de courses-poursuites dans sa vie ?
Non, en fait, aucune. Chaque fois qu'il était intervenu, les autres véhicules s'étaient arrêtés.
Ah ouais, mais donc c'est la première fois qu'il est dans une situation aussi stressante alors.
Tout à fait. C'est la première fois où il est confronté à ce type de situation.
Ah, et ça on l'avait pas compris en lisant le truc dans les journaux, que c'était la première fois que le policier se trouvait dans une situation pareille.
Ce soir-là, combien de balles sont tirées sur le véhicule ? Uniquement celles de Victor ou d'autres armes ont tiré ?
Il y a une seule balle qui est tirée par mon client et on pense qu'il y a eu d'autres balles qui ont été tirées préalablement par d'autres policiers. Mais a priori, en tout cas, ils ont montré leurs armes, mais il n'est pas établi avec certitude qu'il y aurait d'autres coups qui auraient été tirés préalablement.
Donc le policier s'appelle Victor, c'est lui qui va viser les pneus. Malheureusement, la balle aboutit ailleurs que dans les pneus. On comprendra pourquoi avec les détails de cette course-poursuite.
Autre élément factuel à ce stade. Quand Victor tire sur les pneus de la camionnette, la police sait-elle déjà qu'on a affaire à des migrants ou elle pense avoir affaire à des voleurs ?
Alors, la police, de manière générale, ce n'est pas Victor. Et donc, Victor, lui, ne pense pas qu'il s'agit de migrants. Ou en tout cas, c'est pas certain qu'il s'agisse de migrants. Mmh. En revanche, d'autres policiers ont l'information. Et c'est bien une des critiques qui peut être formulée de manière générale sur le problème de communication.
Ah oui, ça n'a pas tourné. Mais donc, en gros, l'image, faut le voir un peu là, à la va-vite. C'est une camionnette sur des aires de parking en pleine nuit. C'est compliqué de comprendre la séquence.
On a beaucoup parlé du procès du policier, mais qu'est devenu le conducteur de la camionnette ?
Le conducteur de la camionnette a été condamné également par le tribunal correctionnel et lui n'a pas interjeté appel. Il faisait par ailleurs l'objet d'une autre procédure pour être membre d'une organisation criminelle qui participait à un trafic d'êtres humains. Il a été condamné également en Liège, mais ça, je n'ai pas l'information précise de la peine.
Lui, pour le coup, on le comprend quand on prend tous les éléments. Lui, pour le coup, il conduit comme un cow-boy, mais il a 27 personnes dans son dos.
Les parents de Maouda ont reçu un ordre de quitter le territoire. Combien de temps après la mort de leur fille ?
Ça rajoute à la brutalité du truc.
Ça rajoute à la brutalité du truc. Et de fait, cet événement a été géré en particulier par des membres du gouvernement de l'époque et les membres de la NVA. On y reviendra peut-être de manière, je trouve, parfaitement scandaleuse.
Parce qu'il faut se rappeler le contexte politique, effectivement. C'est l'époque où on regarde les migrants, on les regarde toujours avec sévérité dans certains partis. Mais là, effectivement, il y a une partie politique qui va se mettre en œuvre avec un pays coupé en deux. Ceux qui disent c'est la faute des parents, ils n'avaient qu'à pas être dans une camionnette et partir. Ceux qui disent c'est la faute d'un policier. Une dernière, s'il vous plaît.
Vrai ou faux, la loi dit que la police peut ouvrir le feu quand les gens sont dangereux.
Formulé comme tel, faux.
Faux, oui, faux. Et je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en droit pénal, donc tout l'enjeu sera effectivement de savoir quand on peut tirer, quand on ne peut pas tirer, si c'est un tir accidentel, pas accidentel. Laurent Canès, vous allez nous raconter l'histoire ce matin et le procès. Et donc vous avez eu votre client au téléphone ce matin, Victor, avec lequel vous restez en contact. Alors ce policier reste, j'imagine, dans un traumatisme total après tout ça.
Oui, tout à fait. Je l'ai encore eu ce matin. Et alors on n'est pas en contact quotidiennement, mais on a établi évidemment un lien important par rapport à ce qu'il a vécu et l'aide que j'ai essayé de lui apporter. Et il est toujours aussi blessé. Et sa vision du monde et de la police a complètement changé, même s'il travaille encore pour les services de police, mais dans un bureau, donc dans un contexte tout à fait différent.
Ah ouais, la vôtre changera peut-être aussi si vous lisez le procès Maouda qu'on vous raconte ce matin.
Il mériterait d'être dans le journal.
Évidemment, le moyen de communiquer avec nous et de poser les questions à l'avocat, de l'interroger même si vous le souhaitez, c'est au 33 23 25 centimes le message sur Bel RTL. Et c'est un autre univers de dessin animé, c'est un Love Is All avec Roger Glover. On n'est pas du tout là-dedans ce matin, on est dans le procès Mavda. On est donc dans cette nuit du 16 au 17 mai 2018. Un policier va tirer sur une camionnette. Mavda, 2 ans, meurt. Laurent Kenes, vous êtes donc l'avocat du policier. Vous avez écrit le bouquin avec votre client, avec Victor le policier. Vous l'avez écrit sans lui, le bouquin ?
Non, je l'ai écrit. Alors, je l'ai écrit avec Gilles Milcan, qui est un journaliste. Et un ami de longue date. Et donc, à un moment donné, quand j'ai senti que j'étais un peu court, je sais qu'il était intéressé par le projet. Et donc, je lui ai demandé de l'aide par manque de temps. Et puis parce que c'est gai d'avoir une lecture, une relecture, et d'avoir un deuxième avis. Donc, on a beaucoup débattu. Lui, Victor a évidemment tout relu.
Ah, il a relu.
Je voulais son accord, mais il n'a pas rédigé ce
Donc, ce n'est pas ouvrage. Contre l'auteur des faits, c'est avec l'accord de l'auteur des faits. Alors, on va recommencer l'histoire à zéro dans un instant. On est sur l'autoroute, camionnette blanche, fausse plaque d'immatriculation. Et la suite, c'est après la pub.
Il mériterait d'être dans le journal. Avec Premium Automotive, Jean Blou.
Bonne matinée sur Bel RTL.
Tous les jours sur Bel RTL, on est là pour vous.
Désolé, on fait un barbecue ce soir. T'aurais pas un bon plan pour trouver un barbecue ?
Ah oui, une grande table.
Ouais, 10 chaises.
Ouais,
et des amis.
Des amis, une dizaine. Pas mal, ouais.
Merci.
Zoé, c'est la reine des bons plans qui trouve toujours la bonne affaire.
Et pour un bon pack internet et mobile ?
Pour ça, Zoé a repéré le pack Duo Super Relax avec l'internet illimité et 10 gigas de data mobile. Tout ce dont vous avez besoin à seulement 40 euros par mois au lieu de 63 pendant 6 mois.
Ah ouais, pas mal. Ouais.
Car ce qui compte pour vous, compte pour nous.
Vous d'abord.
Infos et conditions sur vous.be ou au 0800 825.
Carglass répare, Carglass remplace.
Chez Carglass, si vous êtes assuré contre le bris de vitre, le plus souvent une réparation ou un remplacement est gratuit. Alors prenez rendez-vous immédiatement et nous réglerons tout avec votre assurance. Pas de dépenses imprévues, pas de soucis.
Prenez rendez-vous sur carglass.be.
Événement RTL Sport, le Lotto Brussels premier paddle est de retour. Les meilleurs joueurs de la planète se donnent rendez-vous en Belgique. Dans une ambiance de feu, à tour et taxi, tous n'ont qu'une seule chose en tête, le prestigieux trophée. Ne manquez pas l'étape belge du Lotto Brussels premier paddle, cette semaine en direct et en exclusivité sur RTL Play.
Pourquoi de plus en plus de personnes font leur achat avec leur smartphone? Et pourquoi le pouvoir d'achat est au cœur des programmes politiques? Et pourquoi la mobilité l'est-elle aussi? Et pourquoi les élections, c'est si important pour la démocratie?
On ne se demande jamais trop pourquoi. Lire le soir, c'est se demander pourquoi pour mieux comprendre pourquoi. Le soir.
Un moment train, c'est le moment idéal pour préparer sa rando en Ardennes.
Eh, hey, regarde, elle est géniale cette tente, hein. Il suffit de faire ça et puis hop, elle souffle seule. Y a quelqu'un qui sait comment on replie ça?
Profitez à fond de votre moment train vers l'Ardennes. En plus, avec le week-end ticket, l'aller-retour est à moins 50%. Plus d'infos sur sncb.be. Un moment train,
un moment nature.
Il mériterait d'être dans le journal.
Mais est-ce que Laurent Kenness peut nous refaire le minute par minute de cette nuit-là? Alors nous sommes donc en mai 2018 et on commence le bouquin par l'histoire d'une autre famille, pas la famille de Maouda, mais une autre famille qui est dans la camionnette. Et cette famille, dans son audition, va permettre de comprendre ce qui se passe. Donc ce sont tous des gens qui sont des migrants de passage, qui visent l'Angleterre. Et là, un jour, à Dunkerque, il y a un gars qui vient leur dire « Le voyage, c'est pour demain matin ». C'est comme ça que ça démarre.
C'est comme ça que ça démarre. Alors la famille dont vous parlez, c'est la deuxième famille qui se trouve dans la camionnette, donc qui avait aussi deux enfants de mémoire de 3 et 1 an. Donc on a deux familles avec des enfants en bas âge qui sont présents. Il y a aussi un jeune homme qui a 14 ans qui est tout seul, donc il y a des mineurs d'âge, soit seuls, soit accompagnés, vraiment des tout petits enfants. Et donc quand on voit le parcours qui est raconté de cette famille qui se retrouve à ce moment-là, ça fait froid dans le dos.
Oui, c'est des gars qui ont fait le tour du monde, quoi. Et la dernière étape, c'est Dunkerque, quand le gars leur dit c'est pour demain soir et on va les entasser, je sais pas comment dire, on les entasse dans une camionnette, quoi.
Alors, ce n'est pas évidemment une camionnette de transport de personnes. C'est une camionnette où, à l'arrière, on met des outils. Et ici, à la place de mettre des outils, on a entassé 27 personnes, dont des enfants. Ils sont tous à terre, et ils circulent pendant le véhicule, circulent depuis la France jusque la Belgique pendant des heures. Non, ça fait 4-5 heures qu'ils roulent lorsqu'il y aura l'intervention.
Le livre est dingue parce qu'on comprend toute la réalité, notamment financière. On demande combien à ces gens pour être embarqués, entassés dans une camionnette et peut-être livrés à l'Angleterre. Combien ils doivent payer?
Donc là, on parle évidemment uniquement du transfert espérés vers l'Angleterre. Ouais. On les emmène, ils doivent se mettre dans un camion de manière clandestine, on les enferme dans un camion et donc c'est la seule chose que l'on fait pour eux. Pour une famille de 4, ils demandent, certains parlent de 10 000 livres, d'autres de 12 000 livres, donc c'est un peu plus encore en euros.
Ouais.
Et pour une personne, c'est 3 000 à 4 000 livres.
Ah, on a dans des montants qui sont quand même faramineux. Et donc cette nuit-là, cette camionnette, elle tourne là sur l'autoroute belge à la recherche d'un camion qui clignote sans doute direction Angleterre. On veut stocker tous les migrants dans un camion, sauf que le chauffeur, là, il trouve pas. Et au moment où il va reprendre la direction de la France, la police belge repère une camionnette. Donc, premier repérage, c'est quoi? On pense que c'est une camionnette en infraction, on veut faire un bête contrôle. C'est quoi le début?
Alors, la première chose, c'est qu'il remarque donc sur une autre aire d'autoroute, c'est la police namuroise qui constate qu'il y a une camionnette qui est louche parce que la plaque d'immatriculation ne correspond pas au véhicule et donc il faut un contrôle de la plaque d'immatriculation. Il craint des vols cargo, c'est-à-dire le fait d'aller voler dans des camions. Mmh. Et donc à partir de ce moment-là, il lance sur un vol cargo une recherche de la plaque. La camionnette redémarre, ils suivent la camionnette et puis il va y avoir 4-5 véhicules qui vont le suivre avant l'intervention de mon client. Là, c'est la police de Namur qui suit entre Namur et Mons.
Ouais, donc c'est une scène véritablement de film, hein, une course-poursuite sur autoroute. Et donc le chauffeur, effectivement, qui a les migrants derrière, il veut pas s'arrêter. Il a une conduite plus qu'agressive puisqu'il va même à un moment tamponner les voitures. Et c'est là que votre client, entre guillemets, Victor le policier, entre en scène. Victor est un policier de la police de la route. Il est ce jour-là passager, donc son équipier conduit le véhicule et ils sont donc appelés en renfort. Ils sont sur l'autoroute et ils vont participer à la course-poursuite.
C'est exact. Donc l'information qu'ils reçoivent, c'est qu'ils doivent intervenir alors qu'il y a déjà 4 véhicules, au moins 5 probablement, qui sont déjà derrière la camionnette et qui n'arrivent pas à arrêter cette camionnette qui fait du 130 km/h maximum. Et donc ils vont demander à un autre véhicule de la WPR, de la police de la route de Mons, d'intervenir et de venir se mettre devant la camionnette pour bloquer la camionnette. Et c'est ce qui va être demandé à Stéphane qui est le conducteur et Victor qui est le passager.
Alors j'ai pas le bon mot, mais c'est un méli-mélo micmac. La voiture se met à gauche, la camionnette se repositionne, on se remet à droite. Enfin, il y a un chassé-croisé. Et donc il y a ce moment où votre client Victor va sortir son arme. Il y a déjà eu des armes sorties quelques fois, mais donc là il sort son arme et son intention est de viser le pneu. Pourquoi sa balle n'atteint pas le pneu? Quel est le dernier coup de volant qui va parasiter et changer la vie de tous ces gens?
Alors d'abord, quand il sort son arme au départ, c'est pour demander de
oui, c'est un mollo, c'est regarde, on est voilà, armé, on a la police.
Regarde,
quoi,
on est armé, il faut arrêter ce que d'autres ont déjà fait. Le conducteur n'en a rien à faire. Et puis, il se retrouve un peu en retrait de la camionnette. Lui est passager, donc il est juste à proximité, il a 1 ou 2 mètres du pneu. Et il a appris durant la formation qu'il y avait moyen de tirer dans un endroit du pneu pour faire une crevaison lente, c'est-à-dire que le véhicule s'arrête sur 2-3 ouais. kilomètres sans explosion. Et donc il pense à cette formation, il regarde, il sort son arme, il se penche avec son arme pour tirer. Et à ce moment-là, il y a un coup de volant de la camionnette vers la voiture de police. Le conducteur évite le heurt avec la camionnette. Et à ce moment-là, il y a un coup de volant et que lui est dehors, à moitié dehors du véhicule. Mmh. L'arme bouge, il clique et le tir part. Ce qui a été démontré par l'expert en balistique.
Ouais, la balle part et la suite de l'affaire médiatique, c'est l'affaire Maïda, une petite fille de 2 ans qui était donc dans cette camionnette et qui est morte. Alors évidemment, tout ça va prendre une tournure assez politique. Ça, on l'a suivi dans les médias. Ce qu'on a moins suivi, c'est le moment de l'audition de votre client qu'on raconte dans un instant, puisqu'il faudra bien un moment auditionner le policier dont la balle a tué un enfant.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Le pire et le reste, elle s'en fout.
Si tu savais comme c'est beau.
Si tu savais comme c'est beau.
Si tu voyais comme c'est beau.
Si tu voyais comme c'est beau.
J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Ah bah dans la progrès ce matin, il y a un peu de Joseph Kamel, de Julien Doré, c'est le duo avec Beau. 9h28 et ce scénario de film, sauf que malheureusement c'est la totale réalité. Donc on est resté Laurent Kenness au moment du tir, votre policier, la Victor, va tirer. Le soir même, il sait que la petite Maïda est morte ou il ne le découvre pas le soir même quand la camionnette est à l'arrêt et que les secours sont là?
Donc il a vu la camionnette à l'arrêt et à la suite de l'accident, parce que la camionnette après un accident avec un camion après le tir et donc il apprend qu'il y a une petite fille qui est blessée. Tout le monde pense qu'elle est blessée à cause de l'accident. Il constate assez rapidement que son tir est passé par la vitre avant et personne n'imagine que cet enfant était devant. Et d'ailleurs, les parents n'oseront jamais dire eux-mêmes que l'enfant était devant. C'est avéré qu'il était devant. Mais donc, ce n'est que le lendemain matin qu'on va venir le chercher chez lui pour lui dire de venir au bureau, qu'il va être interrogé.
Ah, mais donc, remettez-vous dans le contexte. D'un côté, des migrants. Qu'est-ce que font ces gens-là avec des enfants sur la route à cette heure-là? Un policier tireur, tueur d'enfants, des camps qui se forment, et ça nous amène aux questions qui fâchent après la pause.
Il mériterait d'être dans le journal, revient dans quelques instants sur Bell RTL.
Dis Aldi, pourquoi 9 clients sur 10 achètent du frais chez Aldi?
Pourquoi? Parce que choisir de délicieuses myrtilles fraîchement récoltées, ça c'est malin. Et parce que à 3 euros les 300 grammes, c'est même un prix super malin.
Aldi, le choix malin.
Soir Mag.
Soir Mag met les serres royales de Laeken à l'honneur dans un hors-série exceptionnel de 84 pages. Les serres ouvrent leurs portes au public du 26 avril au 20 mai. Ce hors-série richement illustré vous dévoile tous les secrets de cette fabuleuse cité de verre dédiée à la nature. En vente dès à présent en librairie.
Soir Mag.
Curieux de tout.
D'abord une paire de talons en cuir et puis je vais me laisser séduire chez Bristol. On trouve de la qualité chez Bristol, mais toujours à prix serré.
Profitez des promotions de mi-saison chez Bristol, avec jusqu'à 50% de réduction.
Bristol, joli m'en futé.
Écoutez maintenant Overphonic, The Best Day of Our Life, sur Bell RTL.
Too high for you to climb. And you know the answer's there, but you're still asking yourself, what's the why? But from the top of your lungs,
d'être dans le journal.
Mais est-ce que Laurent Kénès répond aux questions qui fâchent? Il est donc l'auteur du procès Maouda. Vous êtes l'avocat du policier Victor qui a donc tiré sur la petite Maouda, 2 ans, qui est morte dans cette intervention de police. Alors, le 17 mai, donc on est juste après les faits, on est le lendemain, il y a le procureur du roi qui directement dit publiquement « On peut exclure une blessure par balle qui viendra de l'arme des policiers ». Donc là, on se dit « Wow, procureur du roi, directement, il protège la police, justice de classe ». Ça, c'est ce qu'on se dit le 17 mai. Procureur du roi qui l'innocente, il n'y a même pas 24 heures.
Ouais, ce qui n'aurait aucun sens. Hein. Donc le procureur du roi a commis une gourde monumentale.
Ah, gourde
Mais parce qu'il a reçu une mauvaise information. Oui, tout le monde a constaté qu'il y avait une erreur. Ils s'en sont eux-mêmes excusés. C'est évidemment une erreur. Après, je ne pense pas qu'il y ait une volonté de protéger qui que ce soit. Ce serait tellement absurde, puisque le lendemain même, ce sont eux-mêmes qui revoient sur la base des informations médicales qu'ils perçoivent. En fait, c'est pas le procureur qui commet une erreur à la base, c'est l'information qui est communiquée par le service des urgences au procureur, et le procureur la communique trop vite.
Ouais, il parle un peu vite, de l'intérêt de tourner 7 fois, 12 fois sa langue dans sa bouche. Alors dans les questions qui fâchent ou qui dérangent un peu, il y a ce moment où on organise donc une reconstitution des faits. Alors la reconstitution, c'est pas une course-poursuite sur l'autoroute, hein. Tout le monde se réunit dans un hall, donc on refait pas ça sur l'autoroute. Et alors il y a un truc qui vous chipote quand vous arrivez, c'est que le papa de Maouda, il parle à l'aise, tranquillou avec le chauffeur de cette camionnette, qui est donc a priori pour nous extérieurs, un passeur, un trafiquant d'êtres humains ou un complice. Et il y a une forme de connivence entre eux qui vous chipote.
Oui, donc c'est assez surprenant. Alors dire qu'il parlait tranquillou, c'est un peu caricatural.
Ça, c'est moi qui le romance du roman. Hein, ouais.
Mais disons que, effectivement, donc il est évidemment traumatisé par l'épisode que l'on est en train de relater, mais il parle alors qu'il refuse même que mon client puisse lui parler, puisque Victor voulait aller lui parler pour lui présenter ses excuses, dire je suis désolé en tout cas de ce décès, j'aurais jamais dû tirer a posteriori. Et donc il refuse tout contact. Vraiment, il y a une haine féroce. Je ne veux pas. Ça, tu es le policier, tu es le responsable. Et le conducteur n'est pour lui pas responsable. Alors qu'il y a une responsabilité évidente, d'ailleurs reconnue par la justice, qu'il est responsable. C'est le
oui,
premier
il
n'était
pas au volant malgré lui et il n'a pas foncé dans les voitures de police malgré lui. C'était en conscience.
Il fait même partie d'une organisation criminelle qui reçoit 10 000 livres pour une famille pour passer d'un pays à l'autre. Donc, de fait, c'est un jeune homme qui parle la même langue que le papa de Maouda, donc ça crée un lien, et qui a sans doute un parcours similaire, c'est-à-dire qu'ils ont eu le même parcours, ils viennent de la même région. Lui aussi a suivi ce parcours avant d'être membre de ce groupe criminel.
Alors je fais une parenthèse, mais à ce moment-là, même pour vous, alors que vous avez un peu l'habitude des procès et de ces situations-là, même pour vous, vous retrouvez face à la famille de Maouda en tant qu'avocat du policier tireur, c'est une petite complexité personnelle, quoi. Il y a ce moment où vous y allez pas, je dis pas, je présente des condoléances ou pas. C'est même physiquement un peu compliqué pour vous.
Alors c'est évidemment toujours compliqué. Après, il me semble que c'est l'âge de ne pas y aller, et donc. J'ai été me présenter, on ne s'était jamais rencontré, je voulais qu'il sache que j'étais l'avocat de Victor, et donc quand je prends la parole, il était normal qu'il sache déjà qui j'étais, et je voulais signifier que je n'étais en rien leur ennemi, parce qu'on peut percevoir ça comme ça, mais c'était pas du tout le cas en ce qui me concerne en tout cas.
Au moment de la reconstitution, est-ce que c'est déjà clair pour votre policier Victor qu'il est entendu pour des faits qui sont qualifiés comme étant meurtre? Est-ce que c'est déjà clair? Ou on est toujours au moment de la reconstitution sur potentiel accident involontaire?
Oui, alors en fait, il n'y a jamais eu vraiment d'inquiétude à ce qu'on qualifie le fait de meurtre. Hein. C'est ce qui a été soutenu à un moment donné par les parties civiles. Mais il s'agit d'un homicide involontaire. Personne ne dit qu'il a volontairement tiré en visant une personne pour que qui que ce soit, pour que la personne décède. Mmh. Ça ne correspond pas du tout aux éléments du dossier. Ce n'est ni la thèse du juge d'instruction, ni du ministère public. Mais c'est ce qui a été soutenu par les parties civiles. Mais il sait qu'il est interrogé parce qu'il est responsable du décès de l'enfant, bien sûr.
Faudra qu'on reparle effectivement de ce monsieur, de Victor, policier. C'était sa première course-poursuite. Qui est-il, père de famille, mais quelle implication dans la police? Quelle suite? On en reparle dans un instant. Nous allons d'abord compléter le chapitre sur ces migrants. C'est comme ça qu'on les appelait, ces migrants qui sont en transit en Belgique et qui vont vers ailleurs. C'était le cas donc de cette camionnette, des gens qui étaient à Dunkerque, qu'on a pris pour aller vers l'Angleterre. Qui peut nous éclairer là-dessus? C'est la Croix-Rouge qui s'occupe notamment d'apporter une aide à ceux et celles qui arrivent en Belgique, qui passent, qui restent et qui transitent. Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge en ligne. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai qu'on se concentre souvent dans l'actualité sur ces gens qui viennent chez nous et qui restent, mais vous avez aussi ces migrants de passage, je ne sais pas comment on les appelle en politiquement correct, des migrants de passage?
Nous parlons de migrants en transit et c'est mondialement une préoccupation pour tout le mouvement Croix-Rouge puisque c'est une crise qui s'accentue sur ces parcours migratoires et la Croix-Rouge tente d'y répondre dans la mesure de ses moyens dans tous les pays du monde. D'abord en Méditerranée où nous sommes présents sur un bateau de sauvetage qui s'appelle l'Ocean Viking où nous réalisons des milliers de sauvetages chaque année et ensuite dans certains pays où ces migrants débarquent du bateau, par exemple en Italie, en Grèce, où la Croix-Rouge organise le premier accueil. Et enfin, ça va jusque la Belgique, évidemment, où il y a de nombreuses personnes qui arrivent aussi finalement en Belgique, après toute cette route migratoire, qui se retrouvent soit demandeurs de protection internationale, donc qui ont fait la démarche de vouloir rester en Belgique, ou alors qui ne veulent pas rester en Belgique et veulent poursuivre leur route migratoire vers un autre pays, notamment vers l'Angleterre.
Mais donc, Laurent Kenness, ici, on est vraiment dans ce cas-là, on n'a pas affaire à des gens qui avaient comme projet la Belgique, c'est pas du tout ce profil-là, c'est des gens qui étaient de passage.
Ce sont des gens qui sont de passage, d'ailleurs la famille de Maouda est déjà allée en Angleterre, a été rapatriée de l'Angleterre vers l'Allemagne, et donc essaye de retourner vers l'Angleterre.
Ce sont des gens, Nancy Ferroni, à qui on offre la même aide qu'aux gens qui demandent l'asile belge, ou ce sont des gens qui sont moins aidés?
Mais écoutez, les gens qui demandent la protection internationale à la Belgique, en principe, je dis bien en principe, ils ont le droit d'être hébergés, d'avoir un accompagnement social, médical, etc. Ils sont dans un centre d'accueil, comme la Croix-Rouge peut en gérer 28 en communauté Wallonie-Bruxelles. Mais malheureusement, on sait que la crise de l'accueil perdure depuis maintenant 2 ans en Belgique. Ça veut dire qu'il y a actuellement 3600 personnes, d'après les chiffres de FEDASI, qui n'ont pas de se placent dans un centre structurel et donc qui se retrouvent le plus souvent à la rue. Et notre crainte, c'est que ces personnes, justement, se disent on ne m'accueille pas en Belgique comme je devrais être accueillie. Je devrais avoir une place dans un centre, un accompagnement social, etc. Je n'ai pas cet accueil, donc ces personnes pourraient être tentées de vouloir poursuivre leur route migratoire et d'aller tenter leur chance ailleurs et de devenir des migrants en transit, de vouloir emprunter ce délicat passage, périlleux passage de la Manche, qui est extrêmement mortel. Il y a encore 5 personnes qui ont perdu la vie hier en voulant traverser la Manche. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué et la situation perdure maintenant, je le disais, depuis 2 ans. Et donc, par rapport à toutes ces personnes qui se retrouvent à la rue, qu'elles soient demandeuses de protection internationale ou qu'elles soient migrantes en transit, nous faisons, dans la mesure de nos possibilités, des actions pour répondre à leurs besoins humanitaires de base, c'est-à-dire apporter des vêtements chauds, des sacs de couchage à toutes ces personnes qui vivent dans la rue, des repas, les aider aussi à rétablir les liens familiaux avec les personnes restées avec leur famille au pays,
c'est nouvelles. Amusant d'ailleurs, je dois y mettre les guillemets nécessaires évidemment, mais c'est dans le livre de Laurent Kenness au départ, vous racontez l'audition d'une des familles qui était dans la camionnette, et on voit que ces gens ils ont fait le tour du monde, hein. Ils n'ont pas juste fait Irak, Dunkerque, Belgique, ils ont fait le tour du monde, quoi. C'est ça qui est dingue. Hein.
Tout à fait.
C'est des gens qui sont effectivement globe-trotteurs malgré eux. Merci Nancy Ferroni, vous êtes porte-parole de la Croix-Rouge, ça nous permet de mettre un peu en lumière ce phénomène des migrants en transit, puisque le livre Laurent Kenness, Le procès Maouda, raconte aussi votre vision de l'immigration, de l'asile et de l'accueil en Belgique. Il y a cette dimension politique un peu dans le bouquin, dont on peut reparler dans un instant, juste après Jean-Jacques Goldman et son fameux « Il changeait la vie ».
C'était un cordonnier, sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Faisait des souliers, si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Il changeait la vie. C'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Il changeait la vie. Un tout petit bonhomme, mal habile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il imite en temps de l'armée de douleur, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspiré jour après jour de son souffle et de ses.
Il changeait la vie. Ah ben c'est le hasard, mais de temps en temps, il y a des titres comme ça de circonstances. Quand la vie des hommes change, c'est le cas pour ce policier Victor, qui a tiré malgré lui donc sur la petite Maouda. C'est vrai, Laurent Kenesse, que c'était très politique. Hein. Vous rappelez d'ailleurs dans le bouquin qu'à l'époque, il y a des ministres qui disent c'est la faute des parents. Enfin, il n'y a même pas de filtre sur le truc, quoi.
Non, alors quand on parle d'hommes d'État de l'époque, hein, moi je prends peut-être un peu de la Belgique de papa, mais ici on a un ministre de l'Intérieur, Yann Yambon de la NVA, qui deux jours après... on apprend ce drame et deux jours après il dit oui mais faut se poser la question des parents, la responsabilité des parents, enfin moi je suis parent, c'est comme ça qu'on le perçoit. Oui mais bon, les parents de Maouda ils gagnent pas 250 000 euros par an en étant ministre, donc je pense qu'il faut se remettre chacun à la place qui est la sienne, et je trouvais ça très indélicat. D'ailleurs j'ai communiqué très rapidement en accord avec Victor pour nous départir de ces propos tenus par lui, par Théo Franken, et donc qui donnait, moi ça m'a donné une autre vision de la NVA. Je pensais que c'était c'était à ce point.
En termes de stratégie de défense, tout l'intérêt était de dire très très vite, on n'a pas un cow-boy qui tire sur les gens comme on tire sur des canettes. C'était ça la première priorité de la défense.
Alors c'était ça, et de dire nous aurons une défense qui est une défense d'humaniste, et cet homme est effectivement un être humain dont le père provient d'ailleurs de l'immigration portugaise des années 60. Et donc c'est de dire, attendez, on n'est pas ennemi, c'est un drame d'abord, et nous estimons que nous n'avons pas de responsabilité, mais on aura ce procès dans la dignité.
Ah bah alors dans un instant, racontez-nous qui était ce monsieur, qui était ce papa policier ce soir-là en charge sur l'autoroute.
Bonne matinée sur Bell RTL.
Bell RTL, on est là pour s'entendre. À deux pas du Mardasson, le Bastogne War Museum vous plonge dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale et de la bataille des Ardennes. Venez revivre l'histoire de quatre personnages au travers d'objets uniques, de films et de témoignages.
The Bastogne War Museum, Living Memory of the Ardennes.
Avec Bell RTL, le FEDER et le soir.
La lecture stéréotypée, c'est dépassé. Aujourd'hui, je suis très branchée flair. Mais demain, j'aurai peut-être envie de lire Le Vif ou Transcendance. J'aime varier les plaisirs. C'est pourquoi je lis 30 magazines online sur mesmagazines.be pour seulement 1 euro par semaine. Mes magazines aussi vivent avec leur temps, grâce à mesmagazines.be. Bon, bah là je vais un peu swiper à gauche, dans Gaël.
Votre terrasse est-elle prête pour le printemps ? Go, go, go chez Impermo. Laissez-vous conseiller dans nos showrooms et inscrivez-vous à l'un de nos ateliers de carrelage gratuits. Plus d'infos sur impermo.be.
Carrelage, pierre naturelle,
parquet, Impermo.
Go, go, go chez Impermo. Ce dimanche, ouverture exceptionnelle de 13 à 18 heures.
En plus de votre banque payante, prenez aussi une banque qui vous paye. Comme Kitred Bank qui vous offre 5 cents par transaction.
Ok, mais il va dire quoi mon banquier de chez...
Ah, oh, il a pas besoin de savoir. Et inutile de lui dire aussi que vous recevez 50 euros à l'ouverture de votre compte gratuit.
C'est vrai ?
Oui, et avec, vous pouvez même payer vos frais de chez... Kitred Bank, la banque qui vous paye. Infos et conditions sur kitredbank.be.
Salut, c'est David et je suis boucher chez Colruyt. Il y a de délicieuses promos barbecue en ce moment. Des brochettes de dinde à 13,99€ le kilo.
Faisons la différence. Découvrez toutes les actions jusqu'au 7 mai dans nos magasins. Conditions sur colruyt.be. Colruyt, meilleur prix.
Chez Electrodépôt, vous avez déjà un réfrigérateur combiné No Frost Valberg de près de 2 mètres pour seulement 349€.
Electrodépôt.
Des prix, mais pas seulement.
Il mériterait d'être dans le journal.
Mais comment la vie d'un homme, ce soir-là, a pu complètement changer ? Cet homme, c'est Victor, le policier que vous racontez Laurent Kenesse dans le procès Maouda. Alors c'est assez amusant au départ, parce que c'est pas un policier d'origine ou de vocation. Il a fait autre chose avant d'être policier. C'est un gars qui est rentré sur le tard à la police, en fait.
Tout à fait. Donc c'est un informaticien et il perd son travail parce que la société pour laquelle il travaille fait faillite. Je ne sais plus exactement quelle année, genre en 2010 je pense. Et donc il se dit qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Mais tiens, j'aime bien la moto. Et donc comme j'aime bien la moto, quelqu'un lui parle d'être motard dans la police. Donc c'est comme ça qu'il choisit d'être policier. C'est pas pour tirer, c'est plus pour faire chips que Starsky Hutch, si vous me permettez l'expression. Et donc il se dit bah, bonne idée, je vais faire ça.
Ouais, puis il est pas non plus dans les brigades d'intervention parce qu'il arrive à la police de la route.
Non, puis il est déjà plutôt jeune quand il arrive. Donc il a 36 ans au moment où les faits se passent. Il est père de famille. On le dit plutôt tireur, mais il n'a jamais tiré que dans un stand de tir, jamais ailleurs.
Oui, il est bon tireur dans les entraînements. Et mais voilà, il n'a jamais eu l'occasion d'exercer en réel.
Il n'a jamais été confronté à une situation qui justifiait de tirer, tout comme il n'a jamais été confronté à une course poursuite. Et donc il travaille là, et le conducteur lui a 30 ans d'expérience, lui en a 8. Ils ont plus ou moins le même âge, mais lui a travaillé dans autre chose avant.
Bah, les choses sont claires, le conducteur c'est le chef. On pourrait dire que ce soir-là dans la voiture, c'est votre client qui est le king, qui donne le la et des positionnements. Non, il est vraiment, votre client est là en équipier, c'est le conducteur qui a la main.
C'est le conducteur qui a la main. Alors il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on demande à ce conducteur de se mettre devant la camionnette. Ils vont, la camionnette et le conducteur de la Volvo des policiers, vont tous les deux prendre des risques. À tout moment, il risque d'y avoir que les deux véhicules peuvent se percuter avec 28 personnes qui sont à l'arrière et 28 personnes qui peuvent décéder à la suite de cet accident. Personne ne dit que ça c'est fautif, puisque c'est exactement ce qu'on leur demande. Mais quand mon client, il vise un pneu, il y a une personne qui est blessée et qui décède. Là, on dit que c'est ça, c'est le coup de trop, il fallait pas faire ça. Il y a donc une indication qui est très, qui est très mauvaise à la base. On ne doit pas leur demander d'intervenir. Alors on les laisse circuler, on met une herse beaucoup plus loin, on continue en France. Il y a d'autres manières de fonctionner. On ne demande pas à un autre véhicule d'intervenir.
Qu'est-ce qu'il a gardé comme image? Pour le dire autrement, est-ce que ce tir, la mort, la séquence médiatique et le procès ont tout effacé, ou il a gardé des images? Il y a notamment cette famille là qui est dans la camionnette, et cette audition que vous relayez au début du bouquin, où une maman dit bah oui, c'est moi qui ai mis ma petite Yara, ma petite fille, je l'ai montrée à la fenêtre. Donc on l'a, cette femme a sorti son enfant de la camionnette, de la fenêtre, pour montrer qu'il y avait un enfant. Qu'est-ce qu'il a gardé comme image, votre client?
Alors,
de tout ça,
cette image-là, il ne l'a pas vue, puisque ça, c'est avant son intervention à lui. Mais donc, effectivement, il y a des policiers qui étaient derrière, et qui sont de la police de Namur, qui ont vu un enfant par la fenêtre arrière, et qui va dire, bah, tiens, là, je vois un enfant. Donc, ils ont décidé d'arrêter de tirer. Ils ont même cru, à tort sans doute, qu'on allait jeter un enfant par la fenêtre. Et donc, ces policiers ont été choqués par ce qui se passait. Et Maouda était d'ailleurs passé devant, sans doute, pour montrer qu'il y avait un enfant et qu'il ne fallait donc pas tirer au moment de l'intervention de mon client. L'image de mon client, lui, il n'a pas vu de migrant. Mais par contre, l'image qu'il a eue, lui, c'est quand il arrive près de la camionnette, a posteriori, après l'accident, et qu'il remet son arme à son supérieur, et qu'il voit à ce moment-là 28 personnes qui sortent de la camionnette, une petite fille qui est blessée à la suite de l'accident, et il est choqué par le nombre de personnes.
Et là, tout explose. Alors, il y a même une forme de, pas de désinvolture, mais de naïveté, parce que le lendemain, il se représente en service. Et puis c'est là que tout bascule, il est convoqué, il est appelé, la séquence se met en route, et vous expliquez qu'il est relativement lâché. La hiérarchie, les syndicats, personne ne l'entoure, ce policier qui était de la famille se retrouve seul.
Oui, alors j'étais assez surpris, je pensais que, et j'ai déjà eu d'autres cas de policiers qui étaient poursuivis et que je défendais, j'ai toujours vu une bonne solidarité. Ici, rien. On lui a proposé d'aller voir peut-être un psychologue si c'était nécessaire. Mais au procès, il y avait aucun de ses collègues qui était présent pour le soutenir. Heureusement qu'il avait une femme formidable et son fils pour le soutenir, mais rien. Il a d'ailleurs, malgré les propos tenus par le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui a dit c'est normal de tirer, il a fait l'objet après du procès d'une procédure disciplinaire. Il a été sanctionné disciplinairement, ce qui est totalement à l'opposé de ce qui avait été soutenu par le ministre de l'Intérieur, qui a priori est quand même le chef des policiers sur le plan politique.
Il y a une phrase qui est terrible et lourde de sens, mais qui dit aussi son isolement à ce moment-là, c'est que quand il appelle votre cabinet, c'est pas vous qui l'avez en ligne la première fois, mais au téléphone, il dit à votre collègue, c'est le premier truc, je suis l'homme, le policier dont tout le monde parle. Et là, ça dit que la Belgique entière parle de lui, mais qu'il est tout seul au téléphone à vous appeler, quoi.
Tout à fait. Donc c'est un homme qui était très très seul et qui l'est encore aujourd'hui. Il est toujours sous antidépresseur. Il est suivi par un psychiatre, enfin par un psychologue maintenant, mais pour les médicaments, par un psychiatre. Sa vision du monde a complètement changé. Et donc c'est un homme qui est, vous savez, la sanction pénale, c'est pas ce qui est important ici. C'est la culpabilité, ce sentiment de culpabilité et qui a été accentué. Je pense que cet homme avait besoin d'aide et qu'au lieu de l'aider, ben on lui a mis la tête sous l'eau et on a dit c'est toi qui es le responsable. On l'a pointé du doigt alors que la responsabilité est clairement ailleurs.
Alors dans un instant, vous nous redirez quelle était la sentence, la vérité judiciaire exacte. Et ce matin, on essaiera de trouver un titre d'article qui résume non pas l'affaire, mais qui résume la perception de la sentence telle que décidée par la justice.
Chase shining in the moonlight. Are we sure the kids are all right? Or just playing it cool? Watch it fade. It's gonna hurt from time to time. One more drink and I'll be fine. You're the living proof.
C'est le petit Belge qui va nous représenter à l'Eurovision Musty avec Before the Parties is Over. Ouais, on l'a vu au Téléville l'autre jour. Donc, Laurent Kenness, donnez-moi juste la peine. Il y a eu un jugement pour votre client, Victor, première instance, et puis en appel. Quelle est la sentence ou la vérité judiciaire ?
Donc la vérité judiciaire, c'est que la cour d'appel de Mons l'a condamné pour homicide involontaire à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Tout en reconnaissant que la peine était prononcée essentiellement pour donner une information générale, non pas pour le sanctionner lui, mais pour le sanctionner lui et au travers, surtout pour donner une information en disant surtout ne tirez pas.
Ah, donc c'est pour ça que vous dites qu'on a jugé l'affaire, et pas de bol, il y avait un visage à l'affaire, c'était le sien.
Oui, alors je pense qu'il a payé pour tout le monde. Il a payé pour une politique migratoire qui est déficiente, il a payé pour une police qui a été déficiente dans ce cas-ci, pour des indications qui sont foireuses et qui lui ont été données, et je pense que la bonne justice aurait été de l'acquitter en ce qui le concerne, et de ne pas le condamner pour avoir commis une faute. Tout ce qui s'est passé n'est pas de sa responsabilité, et c'est pour ça que j'ai écrit notamment ce livre, parce que j'espère que la société, elle, reconnaîtra qu'on n'aurait pas dû le condamner.
Alors on va voir dans un instant si effectivement vous avez une relecture des événements. Donc les faits, c'est 2018, puis il y a le temps du procès, le temps du livre, et après la pause, je vous soumets des titres, car peut-être que votre regard a changé.
Il mériterait d'être dans le journal. RTL. Vous écoutez Belle RTL.
C'était mieux après. La peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude. De tout le projet, des regrets. Le doute est une contrefaçon qui déguise les possibles en non. Et tous les plus tard en jamais. À force de trop hésiter,
Musique toute la journée sur Bel RTL.
Bel RTL, on est là pour s'entendre. Il mériterait d'être dans le journal.
Mais quel est le bon titre ? Pour peut-être un article dans les journaux Sud-Info ce week-end, une relecture du procès Maouda que Laurent Kenness raconte. Vous êtes donc l'avocat de Victor, le policier qui a tiré sur la petite Maouda 2 ans. Je vous présente vos coachs médias, mais aujourd'hui c'est délicat. Sandrine Corman, bonjour.
Bonjour.
Alison Delray, coach média également.
Bonjour.
Ce matin, l'idée, c'est avec le temps passant, Laurent Kenness, c'est de trouver le bon titre qui résume le jugement, pas l'affaire, on n'a pas de jugement à faire là-dessus. Donc, soit G, la juste peine, c'est 10 mois avec sursis pour homicide involontaire, c'était la juste peine. Soit j'ai un jugement léger pour le tueur de policier. Soit G, Victor aurait dû être acquitté, eu égard à tout ce que vous avez entendu. J'entends que c'est délicat, Laurent Kenness, vous aurez le dernier mot. Donc la juste peine, un jugement léger pour le policier tueur, ou Victor aurait dû être acquitté.
Je partirais quand même sur la première, même si...
La juste peine ?